Et c'est donc Mathieu Laurent pour le journal. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Nous serons dans un instant en ligne de Rio de Janeiro pour y rassembler les dernières informations s'agissant de l'arrestation en Bolivie de l'écrivain et ancien militant d'extrême-gauche Cesare Battisti. Le nouveau nom de la Macédoine, entériné par Skopje, crée une crise gouvernementale en Grèce. Le ministre de la Défense démissionne du gouvernement Tsipras. Le Premier ministre demande un vote de confiance au Parlement. Le Rassemblement national fera campagne en France et en Europe. C'est la feuille de route de Marine Le Pen pour les européennes. Décision de Steven Goyer. Et puis l'invité de ce journal est le sociologue Gérald Bronner. Il nous fera part de ses questionnements et réflexions sur le grand débat national qu'ambitionne d'organiser l'exécutif à compter de mardi prochain. Des policiers italiens, appuyés par leurs collègues boliviens, enquêtaient depuis des semaines et c'est finalement une équipe d'Interpol qui a repéré Cesare Battisti hier en pleine rue à Santa Cruz de la Sierra. Il portait une fausse barbe et une fausse moustache et avait en sa possession une pièce d'identité brésilienne. Cesare Battisti avait gagné en effet le Brésil en 2004. Après avoir passé 15 ans en France, il avait fui la France pour ne pas risquer d'être extradé en Italie. L'Italie où il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour 4 homicides et complicité de meurtre. L'écrivain et ex-militant d'extrême-gauche a toujours clamé son innocence. Nous sommes donc en direct de Rio de Janeiro. Bonsoir Anne Vigna. Anne Vigna. Oui, on l'a appris en milieu d'après-midi.
Oui,
Anne, Cesare Battisti devrait être expulsé au Brésil.
Oui, c'est en tout cas ce qu'affirme le général Heleno, hein, qui est ministre de la Sécurité institutionnelle, l'équivalent d'un conseiller spécial à la sécurité. Ce général, qui est un proche de Bolsonaro, affirme en effet à la presse brésilienne qu'un avion de la police brésilienne est parti chercher Battisti en Bolivie en vue de le ramener et que les négociations avec la Bolivie avancent dans ce sens. Mais alors où je vous parle, la Bolivie ne s'est toujours pas exprimée. La presse bolivienne ne cite que les déclarations italiennes et brésiliennes à la suite d'une réunion ici présidée par Jair Bolsonaro. La procédure d'extradition de Battisti pour l'Italie a été signée par l'ancien président Michel Temer le 14 novembre dernier. Donc si Battisti est ramené au Brésil, il sera très rapide de l'extrader, comme Jair Bolsonaro le promet à son allié, le ministre de l'Intérieur italien. Bolsonaro et Salvini semblent en effet assez confiants sur une extradition rapide. La police bolivienne a coopéré pour sa capture, comme vous le disiez, mais les éditorialistes soulignent que livrer Battisti à deux pays gouvernés aujourd'hui par l'extrême droite, que sont l'Italie et le Brésil, n'est pas une décision facile pour un des derniers leaders à gauche du continent, qui est Evo Morales.
Merci à vous, Anne Vigna, en ligne de Rio de Janeiro. Les autorités brésiliennes l'ont reconnu hier comme le président, le véritable président du Venezuela. Le président du Parlement, dernière structure aux mains de l'opposition, a été interpellé il y a peu par les services de renseignement du régime qui l'ont relâché peu de temps après. Juan Guaido, député du parti radical Volonté Populaire, déclarait hier qu'il était prêt à assurer la présidence par intérim du pays et a appelé à la tenue d'élections. En Grèce, le gouvernement d'Alexis Tsipras menacé. Son ministre de la Défense vient en effet d'annoncer sa démission. En cause, la possible reconnaissance d'une république de Macédoine du Nord. Panos Kamenos a également annoncé que son parti, l'ANEL, ne soutenait plus le gouvernement. Eric Begela, la partie est loin d'être gagnée pour le Premier ministre grec.
Le départ de Panos Kamenos et sans doute des 6 autres ministres affiliés à l'ANEL, son petit parti de droite, a de fait torpillé la coalition gouvernementale droite-gauche d'Alexis Tsipras et prive dorénavant le Premier ministre de sa courte majorité au Parlement. Mais le chef du gouvernement a immédiatement annoncé qu'il chercherait quand même à obtenir un vote de confiance au Parlement cette semaine. Sans doute compte-t-il sur une non-participation au vote de certains, ce qui lui permettrait d'obtenir la confiance avec seulement 120 voix au lieu des 151 requises pour une majorité formelle. Sur le papier, Tsipras possède cette majorité puisque son propre parti, Syriza, compte 145 députés. Mais c'est une autre consultation qui risque bien de faire sauter son gouvernement avant terme. D'ici la fin du mois, en effet, le Parlement grec doit à son tour se prononcer quant au nouveau nom de la Macédoine. Le Parlement macédonien a entériné la nouvelle appellation ce vendredi. L'ancienne République yougoslave de Macédoine est en passe de devenir la République de Macédoine du Nord. Mais Skopje a annoncé ne pas vouloir utiliser cette nouvelle appellation tant que la Grèce n'y aura pas également souscrit. Un nouveau nom qui permettrait de lever le veto grec à une candidature de la Macédoine à l'intégration européenne ou à celle de l'OTAN. Reste qu'en Grèce, les nationalistes et particulièrement les partis de droite, notamment l'AMEL, qui vient de quitter le gouvernement, restent farouchement opposés à toute utilisation du mot Macédoine par leurs voisins balkaniques. Et sur cette question-là précisément, il n'est pas sûr du tout qu'Alexis Tsipras réussisse à trouver une majorité à la Chambre.
Éric Biegala, les frontières de l'Europe, voilà qui détermine bien des curseurs politiques et plus encore des professions de foi. Ainsi, l'extrême droite allemande réunie en Saxe a-t-elle décidé aujourd'hui de faire campagne pour une sortie du pays de l'Union européenne. Et l'extrême droite française, eh bien, elle est en ordre de marche pour les élections européennes de mai prochain. Bonsoir Steven Goyer.
Bonsoir Mathieu.
Vous revenez de la Mutualité à Paris. Marine Le Pen a présenté la liste du Rassemblement national. La stratégie tient en une phrase. La présidente du RN veut, je cite, « prendre Macron sur deux fronts en France et en Europe ».
Et elle a d'ailleurs très vite rappelé les enjeux de ce scrutin. Dès la première minute de sa prise de parole, le message est clair. Ce vote se jouera avant tout à travers la politique nationale.
Si l'on fait de la sismologie et la politique ne nous épargne jamais de tremblements de terre, l'élection européenne joue, nous le constatons cette fois, comme la réplique de l'élection présidentielle.
Et s'il fallait une preuve supplémentaire de l'angle franco-français donné à ce lancement de campagne, on pourrait aussi citer les clins d'œil envoyés aux Gilets jaunes, Marine Le Pen évoquant une saine révolte pour qui ces élections seraient l'occasion de dénouer la crise politique en écorchant dans le même temps la gestion du conflit par l'exécutif.
Les autorités ont choisi la confrontation quand la situation appelait l'apaisement, la répression quand l'éthique n'autorisait que le maintien de l'ordre. En jouant l'escalade dangereuse, le chef de l'État ne se comporte pas en homme d'État. Pour les électeurs, l'enjeu sera clair. Il s'agira de battre Macron.
Et lorsque ce n'est pas sur le plan national, c'est en effet dans un cadre plus large que Marine Le Pen s'en prend au président de la République, associé à Angela Merkel, à Jean-Claude Juncker, en bref, à ce que la présidente du RN considère comme un bloc, pour reprendre ses termes, européiste.
Demain, au sein du Parlement européen, autour de cette nouvelle structuration politique, deux blocs idéologiquement opposés se feront face. Les européistes, derniers défenseurs de l'Union européenne, et nous, les patriotes, les vrais Européens, qui sommes les défenseurs de l'Europe des peuples.
Des termes repris à la tribune par la tête de liste Jordan Bardella, qui a aussi nationalisé le débat, en espérant, je cite, que Castaner ait les larmes aux yeux en voyant arriver les résultats. Fin de citation.
Merci à vous, Steven Goyer. Une lettre aux Français sous forme d'invitation à prendre part à des débats jusqu'à la fin du mois de mars. Le président de la République prend la plume et compte ainsi combler le fossé entre le pouvoir, dont la légitimité est en berne, et celles et ceux qui se considèrent comme les déclassés de la République. Nous avons choisi ce soir d'échanger avec le sociologue Gérald Bronner. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Gérald Bronner, cette consultation, cette plage d'écoute, en quelque sorte, n'a pas été choisie par les Français. C'est peut-être pas évident pour l'État qui, lui non plus, n'a pas choisi de réunir les conditions pour que les échanges puissent se produire.
Non, c'est sûr, on a le sentiment que c'est une situation dont tout le monde hérite en traînant un peu les pieds. Mais les processus de participation qui sont évoqués, dont on ne sait pas exactement à quoi ils vont ressembler en détail, puisque le Premier ministre a évoqué un jardin à l'anglaise, ce qui veut dire en fait beaucoup d'initiatives un peu disparates, il est certain que ce type de processus a été utilisé un peu partout dans le monde pour répondre à une question qui est française, mais pas que française, qui est celle de la méfiance, de la défiance vis-à-vis du pouvoir politique. Et en démocratie, il est assez légitime de se poser la question de savoir comment on peut rapprocher, en quelque sorte, les électeurs de ceux qui exercent le pouvoir. C'est vrai que les processus de consultation, en dehors des élections, que sont la démocratie participative ou délibérative, ça peut être des solutions à envisager.
C'est quoi la différence entre, justement, le participatif et le délibératif, selon vous ?
Ah bah typiquement, et pas selon moi, je dirais, selon la littérature, la démocratie participative, c'est une démocratie où on va consulter, par exemple, par des cahiers de doléances, par exemple, par un référendum, et on va recueillir donc la moyenne des points de vue qui vont s'exprimer, alors que la démocratie délibérative, elle implique des instances, des forums où les gens vont délibérer, et on espère que cette délibération va faire aboutir les individus qui y participent, en quelque sorte, à des décisions plus sages. On parle quelquefois de sagesse des foules. Alors ce sont des processus qui peuvent être très utiles, mais qui ne sont pas sans danger. Donc je pense qu'il faut utiliser ce type de solution avec, disons, beaucoup de précautions.
On va y revenir à ces dangers potentiels dont vous parlez, Gérald Bronner. Mais tout d'abord, on peut avoir l'observation suivante. L'État, qui est en vitesse de croisière un recours, c'est lui, aujourd'hui, qui fait recours au peuple.
Oui, il fait recours au peuple, évidemment, à la suite du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire une contestation d'abord quantitative, non négligeable, et puis symbolique très forte, avec des violences, etc. Donc, il y a plusieurs solutions. Il y a la dissolution de l'Assemblée nationale, ou alors, tout simplement, il pourrait faire sourd oreille. Je pense que là, on est dans une stratégie intermédiaire, et peut-être que de cette crise, il pourrait sortir quelque chose de très bon. Mais à condition, évidemment, que ces processus ne reproduisent pas des instances de type vertical. C'est-à-dire que s'il s'agit seulement de recueillir le point de vue, des Français par leur colère, par leur frustration, et qu'à la fin, dans le fond, on va avoir des cahiers de doléances, mais il est peu certain qu'on ait des ex-voto, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on risque de se retrouver dans une situation où les demandes très multiples qui vont être faites, d'abord, on s'interroge sur la façon de recueillir toutes ces informations, de les normaliser.
Et de les traiter.
De les traiter, et comment y répondre si ces demandes sont contradictoires et incompatibles avec la comptabilité nationale, tout simplement. Donc, ce qui serait à craindre avec cette procédure, c'est tout simplement que le pouvoir politique ne puisse faire autrement que de décevoir les attentes. C'est très dangereux de susciter des attentes, bien entendu, surtout dans le contexte politique dans lequel nous sommes.
Alors, vous dites, et vous le dites assez régulièrement, et on a bavardé juste avant cet entretien, que cela passe par plus de transparence. Que voulez-vous dire, au juste, en matière de transparence ?
Alors, la transparence, c'est une autre procédure pour essayer de réconcilier le pouvoir politique avec les électeurs. Mais là aussi, de même que les processus de délibération ou, disons, de participation, et évidemment, tout le monde ne peut être que d'accord sur le principe de la transparence. Hein. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit de savoir à quoi utiliser l'argent public, par exemple ? C'est un principe fondamentalement démocratique. Mais il peut aussi avoir un certain nombre, je dirais, d'externalités négatives, c'est-à-dire d'effets pervers, et augmenter, par exemple, la suspicion vis-à-vis du pouvoir. Lorsque Tony Blair a promu la loi FOI, qui était une loi de transparence, justement, de l'utilisation des fonds publics, il a dit que c'était une de ses plus grandes erreurs politiques parce que certains collègues ont montré que ça avait augmenté le nombre d'articles de la presse suspicieux à l'égard du pouvoir politique. Donc, vous voyez, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à ces principes fondamentaux en démocratie, que sont la transparence et, bien sûr, la participation des citoyens.
Quelle importance, Gérald Brunner, prêtait aux affects ? Les affects et la politique, c'est beaucoup.
C'est très important parce que dans ce type de procédure, justement, ce qu'on risque de voir, c'est des revendications qui vont paraître extrêmement visibles parce qu'elles sont portées par des groupes bien constitués qui sont plus motivés que les autres. Regardez ce qui s'est produit au Conseil économique, social et environnemental, par exemple. La première revendication très récemment qui est apparue était l'abrogation de la loi Taubira. Je ne suis pas certain, je ne peux pas l'affirmer, mais je ne suis pas certain que cette demande soit représentative du mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Mais ce qui est certain, c'est que cette demande, elle est le fait d'un groupe très bien organisé. Donc c'est là le danger de la consultation et du recours à certains affects et certains éléments idéologiques de la politique, c'est que des groupes mieux constitués arrivent à faire valoir leur point de vue comme étant plus visible et que, du coup, on risque de prendre ça pour de la représentativité, de la légitimité politique. Et il y a quand même un paradoxe à recourir à la démocratie pour faire valoir des points de vue qui sont minoritaires et les imposer aux autres, voyez-vous. Donc une des solutions face à ce problème, et qui est contenue d'ailleurs dans les textes qu'on a vu, les déclarations émises par certains membres du gouvernement, c'est par exemple le tirage au sort sur les listes électorales pour éviter le biais de motivation. Et on apprend, si j'ai bien compris, que ces tirages au sort, s'ils ont lieu, seront faits sous contrôle d'huissier. Ce serait donc en quelque sorte un nouveau rituel républicain. Et cela va dans le bon sens.
Et ça pourrait être éventuellement pérennisé, d'un mot pour terminer ?
Pour terminer, ça pourrait être pérennisé, mais surtout, je crois qu'il faut peut-être recourir à ce type de processus plutôt sur la base de la créativité des individus plutôt que le recueil de leurs ressentiments. C'est-à-dire leur demander de solutionner, pourquoi pas, des problèmes que les politiques, depuis des décennies, n'ont pas encore réussi à solutionner. Car s'il y a bien quelque chose qui est additif dans la délibération collective, c'est la créativité. Et puis, la mutualisation de la connaissance, comme on le voit sur Internet, avec Wikipédia, qui est un outil qui a bien des défauts, mais qui est quand même relativement remarquable.
Eh bien, on en terminera de la sorte. Merci infiniment, Gérald Brunner, d'avoir accepté notre invitation. Avant de refermer cette édition, quelques mots de la météo de demain lundi. Temps marqué, notamment par le retour de quelques éclaircies sur le nord-ouest, sur le quart sud-ouest, le massif central et de Rhône-Alpes à la Bourgogne, Franche-Comté et l'Alsace. Matinée pluvieuse. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.